franceinter.fr.
Difficile de vous conter l'histoire du jambon de Bayonne en 20 secondes, sachant qu'il faut sélectionner, saler et compter de longs mois d'affinage. Mais nous sommes heureux de vous faire partager quelques secondes dans l'un de nos séchoirs où s'affirme son goût unique. Voilà.
Jambon de Bayonne IGP. Prenez le temps d'un grand jambon. Campagne financée avec le soutien de l'Union européenne et la région Nouvelle-Aquitaine.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Il ne faut sans doute pas toujours croire ce que nous racontent les chanteurs. Voilà maintenant une semaine que l'on s'inquiète pour la santé de Michel Polnareff. Une semaine que ses proches et ses médecins expliquent qu'il est extrêmement souffrant, insuffisance respiratoire, et il aurait même frôlé la mort. Mais tout cela pourrait bien être que du pipeau, comme une grosse intoxication médiatique. C'est ce que nous raconte ce matin Renaud Revel dans le journal du dimanche, qui nous fait le récit de ces journées qui ont fait vaciller la star, heure par heure, minute par minute, un récit qui vient contredire la version officielle. L'histoire commence le jeudi 1er décembre, quand Michel Polnareff atterrit au Bourget, à bord d'un jet en provenance de Bordeaux, où il a donné un concert la veille. Malgré une sinusite persistante qu'il soigne aux antibiotiques, il reste en possession d'une sacrée voix, a noté le quotidien Sud-Ouest. Dès son arrivée au Peninsula, le palace parisien, où il doit séjourner jusqu'au spectacle prévu le lendemain salle Pleyel, il se dirige au bar, où il commande plusieurs cocktails, puis il part dîner dans un restaurant russe, repas si arrosé qu'en fin de soirée, l'artiste est pris de vertige et s'effondre sur la table. Son garde du corps doit le traîner jusqu'à son hôtel, où il comate jusqu'à 13h le lendemain, mais à son réveil, il était en pleine forme. Et pourtant, dans les heures qui suivent, on apprend qu'il ne se produira pas salle Pleyel, devant laquelle les spectateurs se massent déjà depuis longtemps. Michel Polnareff diffuse alors sur Facebook une vidéo dans laquelle il explique son forfait. « Je suis dans un état d'épuisement total ». Ses producteurs ne comprennent pas et envoient alors un huissier de justice au Peninsula. Huissier qui dresse un procès-verbal, 18h31. Assis au bar devant un verre rempli, je constate la présence d'un homme d'âge mûr, les cheveux frisés mi-longs de couleur blond clair, portant des lunettes foncées et équipé de verres miroirs. Je reconnais l'homme comme étant Michel Polnareff. Fureur des producteurs qui écrivent à son avocat, deux concerts annulés, celui de Paris et de Nantes le samedi, ce sont près de 500 000 euros qui sont en jeu. Le soir, Polnareff dîne tranquillement au restaurant, puis vers 23h, il appelle un médecin, mais celui-ci ne trouve rien d'alarmant dans son état. D'ailleurs, le lendemain, le chanteur fait savoir qu'il ira finalement à Nantes pour le tout dernier concert de sa tournée. Et puis en fait non, il change d'avis en début d'après-midi, et c'est alors qu'on apprend qu'il a été admis à l'hôpital américain de Neuilly, admis pour insuffisance respiratoire. L'information est diffusée à 14h55, curieux, car sa voiture n'est entrée dans le parking de l'établissement que 10 minutes plus tard. Très curieux également, les communiqués qui vont suivre après avoir diagnostiqué une embolie pulmonaire bilatérale engageant son pronostic vital. Son médecin annonce un rétablissement spectaculaire, il est sorti d'affaire, mais au même moment, certains de ses proches évoquent son combat difficile et assurent qu'il est encore sous oxygène. Bref, tout cela sans la mise en scène. Il n'avait pas envie de chanter, juste envie de boire et de manger, et surtout boire, en l'occurrence. Et pour ne rien devoir aux organisateurs des concerts, il a fait croire à tous qu'il était gravement malade. Voilà, en tout cas, l'hypothèse de Renaud Revel dans le JDD. Photo du chanteur à la une avec ce titre, « L'étrange mal » de Michel Polnareff. Il ne faut pas toujours croire ce que nous disent les chanteurs, donc. Et les politiques non plus, d'ailleurs. Sur le site de Marianne, on peut lire ainsi que le nouveau ministre de l'Intérieur a gonflé son CV.
Oui, Bruno Leroux se prétendait ancien élève des prestigieuses écoles HEC et l'ESSEC.
Et c'était du pipeau. HEC et l'ESSEC, c'est ce qu'on pouvait lire dans son curriculum vitae, disponible jusqu'à jeudi sur différents sites officiels. Mais Étienne Girard de Marianne a mené l'enquête. Impossible de trouver trace du passage du ministre dans les annuaires des deux écoles de commerce. Son cabinet a reconnu une erreur. Erreur de qui? Eh bien, de ceux qui ont rédigé la biographie de Bruno Leroux. Erreur que pendant des années, lui-même n'a cependant jamais pris le temps de corriger, mais désormais c'est chose faite. Depuis vendredi, la mention des deux écoles a disparu de son CV. François Hollande, lui, il a fait HEC, Et ce qu'on apprend cette semaine, c'est qu'il aurait aussi pu devenir banquier d'affaires.
Oui, c'est à lire dans l'hebdomadaire Le 1.
Un numéro qui nous éclaire sur la personnalité complexe du chef de l'État et notamment sur son rapport ambigu à l'autorité. Hollande, merci pour ce moment. C'est le titre du 1 dans lequel le banquier Michel Jacob témoigne donc de l'intérêt méconnu de l'actuel président pour le métier de banquier d'affaires. Michel Jacob avait rencontré Hollande en 1993, alors que celui-ci venait de perdre son siège de député de Corrèze. La finance, à l'époque, n'était pas son ennemi. Et Jacob lui aurait alors proposé de rejoindre la banque d'Edmond de Rothschild. Cependant, avant de l'embaucher, ce dernier voulait s'assurer que l'ex-député ne solliciterait pas de nouveau mandat. En somme, que pour lui, la politique, c'était fini. On était donc en 1993. François Hollande a réfléchi, puis convenu finalement que le virus de la politique était trop fort et il n'est pas devenu banquier d'affaires chez Rothschild.
Contrairement donc à son futur et ex-ministre Emmanuel Macron.
Lequel fait ce matin la une d'une partie des journaux. La une de l'Indépendant, le point droit levé. Emmanuel Macron cartonne. La une de la Provence, le point gauche levé. Macron déchaîné. Il est également à la une de Sud-Ouest Dimanche qui évoque la démonstration de force de Macron. Cette fois, l'ancien ministre a la main posée sur le cœur. Des photos prises hier lors de son meeting à Paris où plus de 10 000 militants de son mouvement En Marche sont venus écouter celui qui se présente maintenant comme le candidat du travail. Libérer le pays par le travail. Citation à la une du courrier Picard avec un cliché qui le montre les bras écartés quand il a hurlé « Vive la France !» Hier, Macron a donc dévoilé ses premières idées et selon le quotidien, il a franchement réussi son entrée en campagne. Bémol néanmoins sur le Huffington Post, aux yeux duquel Emmanuel Macron a surtout distribué les promesses et les cadeaux, mais sans toujours dire comment il allait les financer. Cependant, en termes d'image, tous les journaux conviennent que ce premier grand meeting était important. Macron a su montrer ses muscles, note ainsi le JDD. Et pourtant pas un mot sur lui à la une du Parisien dimanche. Il est question de lui en page 4, mais à la une, pas un mot. Celle-ci est entièrement consacrée à un autre candidat à l'Élysée, en l'occurrence Manuel Valls, qui dévoile au journal à la fois ses motivations et son projet d'une république qu'il souhaite ferme et bienveillante. Sur la photo, il pose les mains jointes, on dirait un premier communiant. Mais les mots contredisent l'image, comme en témoigne la citation à la une. « Ma candidature est une révolte », lance-t-il. Une révolte ? Quelle révolte ? L'explication se trouve dans le cœur de l'interview. Il s'agit d'une révolte face à la défaite annoncée de la gauche au mois de mai prochain. La gauche est challenger, mais je crois que nous pouvons gagner, avance-t-il, en confiant qu'il n'est pas né avec l'idée qu'il serait un jour chef de l'État, mais qu'aujourd'hui, il est prêt à le devenir. Des dizaines de morts et plus de 160 blessés. Les journaux reviennent sur le double attentat perpétré hier devant un stade de foot en Turquie. Carnage à Istanbul, titre la dépêche du dimanche. Et malheureusement, ce n'est pas du pipeau. Les girafes menacées d'extinction, leur nombre a chuté de 40% en 30 ans, c'est à lire dans le journal du dimanche. Et là encore, malheureusement, ce n'est pas du pipeau. Et puis pour finir, je vous conseille la lecture du formidable dossier que le magazine Oui Demain consacre aux poupées. Mais pas n'importe quelle poupée, des créatures de silicone qui au Japon, mais pas seulement, accompagne le quotidien de plus en plus de personnes. Elles viennent combler le manque d'amour. Elles viennent combler la solitude. Certains leur parlent. Certaines sont très jolies. Certaines de ces poupées. Et l'intérêt, c'est qu'elles ne disent jamais non. Ces poupées-là, nouvelle preuve qu'il ne faut pas toujours croire ce que nous disent les chanteurs.
C'est fini ?
C'est fini.
Merci Frédéric Pommier.